Bonjour et bienvenue dans Le Bel Aujourd'hui, un podcast de Forum Opéra consacré à la création lyrique contemporaine. Je suis Alexandre Jamard et je suis aujourd'hui à Nantes au Théâtre Gralin en compagnie du compositeur Philippe Leroux à l'occasion de la création imminente de son opéra L'Annonce faite à Marie. Philippe Leroux, bonjour.
Bonjour.
On est à quelques jours de la première et on entre dans la phase finale de ce travail immense qui a été la conception de cet opéra. Qu'est-ce que ça vous fait d'être si près de l'aboutissement ? J'imagine que vous ressentez une certaine excitation, probablement.
Certaine excitation, mais qui est tempérée par le fait qu'il reste encore beaucoup de travail, même si on a une semaine de la création. C'est vraiment le moment où tout se met en place. Hein. C'est le moment où les instrumentistes arrivent. L'électronique arrive aussi, donc tout le travail qui a été fait avec les chanteurs et la mise en scène depuis le début septembre prend toute son ampleur maintenant, mais il reste encore quand même pas mal de choses à finaliser. Donc voilà, je suis dans l'attente, tranquille, on va dire.
On ne va pas se prononcer trop vite. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu du livret. Donc le titre de votre opéra, c'est L'Annonce faite à Marie. C'est une pièce à l'origine donc, de Paul Claudel. Et avant d'aborder peut-être plus en détail le livret, je voudrais relever avec vous une curiosité de calendrier, disons, puisque en quelques années, en France, on a deux opéras d'après Claudel, en tout cas deux à ma connaissance. Il y a eu Le Soulier de Satin de Marc-André Delbavy en 2021 à Garnier, et maintenant il y a vous. J'imagine que c'est pas non plus nécessairement un hasard de calendrier puisque Raphaël Fleury est dans les deux cas la librettiste de ces deux opéras et il me semble que Delbavy est un compositeur dont vous êtes proche. Est-ce que vous avez échangé tous les deux au sujet de vos opéras respectifs ?
Non, on n'en a pas parlé en fait parce que le mien s'est décidé relativement tard par rapport à celui de Marc-André. Alors Raphaël Fleury, la librettiste, c'est vraiment une spécialiste de Claudel, c'est quelqu'un qui connaît absolument de façon ultra comment précise toute la littérature claudelienne. Elle a fait son doctorat sur Claudel et ça c'est formidable parce que du coup par exemple pour l'annonce faite à Marie, vous savez que c'est une pièce sur laquelle Claudel a travaillé 56 ans, donc quasiment toute sa vie. Il a fait 4 versions et le fait que Raphaël connaisse si bien le travail de Claudel a permis qu'elle fasse vraiment une synthèse magnifique de toutes ces versions. Voilà, ce n'est pas une version en particulier, c'est disons principalement axé sur celle de 1911, mais voilà, elle a fait un travail vraiment dont on vérifie chaque jour la cohérence. Ce qui n'est pas une affaire simple.
J'allais vous dire que c'est une des premières pièces de Claudel, puisque si on remonte à la jeune fille Violaine, c'est quand même au tout début de sa production théâtrale. C'est pourtant ce qu'on considère quand même déjà comme une de ses pièces les plus caractéristiques, puisqu'elle aborde tous les sujets qu'on va retrouver après chez lui dans ses autres pièces ou dans sa poésie. Il y a la mort, il y a la maladie, la jalousie, l'amour, la grâce, le pardon, tout ça en quelques heures à peine. Est-ce que pour vous, il y a une clé de lecture de la pièce particulière ? Et si oui, laquelle elle serait pour vous ?
Je ne sais pas s'il y a une clé de lecture. Disons que moi, ce qui me frappe le plus et qui me touche aussi et qui fait que j'ai été aussi autant passionné par l'écriture de l'opéra, c'est le fait qu'on est en face de personnages qui sont réels, qui sont complexes dans leur nature. Hein. La entre guillemets sainte est une femme qui en même temps a toutes sortes de désirs, porte beaucoup d'ambiguïté dans la façon dont elle embrasse le lépreux par exemple. La méchante entre guillemets et c'est en fait la seule qui a vraiment la foi, en fait c'est la seule qui croit que sa sœur peut ressusciter l'enfant. Donc c'est cette espèce de complexité des personnages, on est très très loin de la légende dorée quoi. Souvent les gens ont une image de Claudel un petit peu simpliste, bon, Claudel le catho, etc. Mais là, si c'est ça le catholicisme, c'est très 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 riche et complexe. C'est vraiment super intéressant. Hein.
Et cette complexité des personnages, j'imagine qu'elle passe par la mise en scène. Est-ce que comment on traduit justement des personnages aussi complexes, alors qu'à l'opéra, souvent on nous a souvent par le passé présenté parfois des personnages qui étaient des archétypes de la justice, de l'amour. quand ça devient ambigu, comment est-ce qu'on fait?
Je dirais que là, c'est presque le travail le plus intéressant. C'est-à-dire vraiment, moi, j'ai eu l'impression de descendre profondément dans la psychologie des personnages. Et après, ça se traduit de multiples façons dans l'écriture musicale. Ça se traduit par des figuralismes, ça se traduit par des intonations, par des profils mélodiques ou des changements de couleur au niveau du timbre qui expriment en fait toutes les affects, les émotions, les relations entre les différents personnages. Donc voilà, moi j'ai vraiment essayé d'écrire une musique, disons, qui suit, qui creuse la psychologie des personnages.
Je lisais quelque part que vous qualifiez cet opéra, ou la pièce, mais l'opéra a fortiori, de drame de la possession d'une âme par le surnaturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette vision que vous avez
Je crois que c'est, il me semble que c'est Claudel qui emploie cette expression. Donc, je pense que quand il parle de ça, il parle principalement de Violaine, hein, qui en fait... au départ, est une simple jeune fille de paysanne, enfin, bon, disons, d'une ferme, c'est pas une paysanne de base, disons, mais paysanne qui va se marier, donc qui est heureuse comme une jeune fille qui va se marier et qui aime l'homme avec qui elle veut vivre. Et puis, petit à petit, on assiste finalement à la façon dont elle est conduite, dont elle se laisse conduire elle-même, par effectivement ce surnaturel dont parle Claudel, c'est-à-dire on imagine Dieu. Enfin, pour Claudel, c'est clair qu'il s'agit de ça. Et petit à petit, elle est amenée à se révéler à elle-même, en fait, sa sainteté, sa foi, son voilà. Donc, je pense que l'aspect de la possession, c'est ça, c'est la façon dont progressivement elle-même se rend compte. Parce que c'est pas donné au départ, quoi, disons.
Est-ce que vous pensez que c'est un drame ? Pour vous, est-ce que c'est un opéra optimiste ?
Oui, je pense que c'est un opéra optimiste, mais au sein d'un drame profond, puisqu'à la fin, quand même, Marat tue sa sœur. Enfin, donc sa sœur vient de ressusciter son enfant et elle la tue. On est quand même dans quelque chose de terriblement dramatique et violent. Mais en même temps, ben voilà, il y a un enfant qui renaît, quoi. Il y a cette résurrection qui est absolument incroyable. Il y a aussi le pardon que Violaine accorde à Marat et à l'homme qui aurait dû être son mari. Et même eux, on sent que à travers leur culpabilité. Comment dire, avoir vécu ce drame de la mort, de l'assassinat en quelque sorte, hein, va leur permettre aussi d'avancer sur leur chemin personnel, quoi. Donc oui, en ce sens-là, c'est tout à fait optimiste.
Est-ce que le livret que vous a présenté Raphaël Fleury diverge beaucoup de l'original ? On a parlé des différentes versions. Est-ce qu'il s'agit simplement de la pièce tronquée de façon à ce que ça puisse être chanté et que ça puisse être mis en musique, ou est-ce qu'il y a un travail supplémentaire qui a été fait pour en faire un opéra ?
Oui, donc Raphaël Fleury a travaillé principalement à partir de la version 1911, mais elle est allée chercher dans les autres versions certains passages. Après, ce qu'elle a fait quand même, c'est évidemment une grande simplification, parce que il fallait évidemment réduire énormément le texte, et elle l'a fait de façon vraiment admirable, hein. Plus on avance et plus on se rend compte que de la cohérence de ce qu'elle a pu faire, déjà de la cohérence de la pièce de Claudel qui est incroyable, hein. Vraiment là c'est fou, enfin, tout, il n'y a pas un mot qui n'est pas en relation avec un autre, qui ne déclenche pas quelque chose, c'est incroyable.
Dans tout le désert du jour, je t'appelle, de toutes les filles de la nuit, je t'appelle. Tu es le cri perdu, j'ai mes cœurs visibles sans voix. Aux lisières du soir, nul ne demande plus à l'ombre d'où elle vient, ni qu'elle est. Ombre des ombres répandent sur le monde, la nuit une falaine dans la nuit des lampes. Je brûle, dit-elle au jour, camarade, je brûle. Je brûle, tu ne vois pas.
Puisqu'on parle de mise en musique, justement, comment est-ce que ça s'est passé dans ce cas particulier? Puisque Claudel, c'est quand même une phrase qui est déjà assez complexe, assez opulente, très travaillée. Comment est-ce que votre musique s'est frayé un chemin à travers la musique déjà portée par le texte de Claudel?
Alors moi, je me suis laissé vraiment porter par le vers claudélien, hein, c'est-à-dire en fait, c'est du théâtre, mais c'est du théâtre qui est en même temps une poésie, et c'est un rythme assez particulier qui moi me convient tout à fait. C'est-à-dire qu'on est pas dans un rythme, enfin le rythme de la phrase ne suit pas la rationalité du discours. Il est coupé de façon parfois abrupte, de façon différente. Il y a un travail sur les consonnes, par exemple, qui est très riche. Pas dans l'annonce, mais dans d'autres pièces, dans le partage du midi, par exemple, Claudel coupe carrément un mot en deux, entre plusieurs vers. Donc il y a tout cet aspect de travail sur le rythme et sur les couleurs des mots, qui, il n'y a qu'à suivre. Moi, je me suis laissé porter, en fait, hein, tout simplement.
Donc c'est une prosodie qui sera assez proche pas du langage parlé, mais du langage claudélien au théâtre et qui n'est pas nécessairement quelque chose de très, très opératique, très lyrique, chanté comme on en a l'habitude dans le grand répertoire.
En fait, si. En fait, il y a beaucoup de techniques différentes à utiliser dans cet opéra. Il y a un peu de parler, on trouve un peu de parler, du chanter, réciter, des mélodies extrêmement lyriques, du travail sur le comment onomatopéique, hein, vraiment sur le jeu avec les phonèmes, avec les syllabes. C'est extrêmement riche au niveau de la vocalité. Hein. On est vraiment dans une vocalité qui utilise aussi des modes de jeu, des modes de jeux vocaux comment extra-européens. On n'est pas uniquement dans le bel canto, très loin. Il y a tout un travail sur la saturation, sur la nasalisation, sur les chevrotements glottiques, sur les vibratos, enfin toutes sortes de choses.
Cette extension de l'écriture traditionnelle belcantiste du chant lyrique, à laquelle donc on ajoute un certain nombre de techniques plus rares que vous avez citées, est-ce que c'est une extension de la palette timbrique du chant, simplement où vous êtes allé glaner dans d'autres traditions parfois populaires des façons de chanter différentes, voilà, dans un but d'enrichir, ou est-ce que c'est plutôt une confrontation, faire dialoguer deux aspects du chant, d'un côté le chant lyrique classique, et puis ensuite tout ce qui serait, ce qui ne serait pas ce chant lyrique?
Oui, mon idée, c'est plus d'agrandir la palette, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, bon, disons que le bel canto consiste principalement à chanter le plus fort possible, dans des salles les plus grandes possibles, le plus aigu possible, avec le moins de souffle, d'impureté dans la voix. Alors là, moi, je demande aux chanteurs parfois justement d'avoir beaucoup d'impureté dans la voix, de chanter parfois en soufflant en même temps.
C'est à chaque fois à des fins expressives, enfin, c'est en lien avec le texte, j'imagine.
Et c'est tout à fait en lien avec le texte, notamment toutes les périodes, les passages de saturation, par exemple, de vocales, qui sont des moments qui expriment très souvent comment dire, une espèce de douleur intérieure, une espèce de souffrance, voilà, intérieure, qui ne s'exprime pas par des mots, mais qui s'exprime par la façon de chanter. Alors, il y a aussi tout un travail sur le parler, mais c'est un parler un peu particulier dans la mesure où, en fait, c'est un parler qui ne dit pas les phrases entières, mais qui ne prononce que certains mots. Comment dire, plaçant l'auditeur dans une sorte d'écoute floue, hein, où il entend juste des mots, et du coup, ce qui permet à l'auditeur, au spectateur, de recréer un sens qui est à la fois le sens originel, rationnel, on va dire, puisque les mots qui sont utilisés sont les plus importants, donc on reconstruit le sens de la phrase, mais aussi de créer d'autres réseaux sémantiques, de créer d'autres relations entre les mots. Et c'est là souvent où intervient la voix de Claudel aussi. Donc il y a tout un jeu qui se crée entre les chanteurs et la voix de Claudel, et puis des trames de voix qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà.
On ne l'a pas encore dit, mais cet opéra a la particularité de ressusciter en quelque sorte Paul Claudel, puisque vous avez passé quelques semaines à l'IRCAM pour justement travailler à la reconstitution de ce que c'était là. Ce qui était la voix parlée de Claudel, dans quel but en fait?
Bon, moi, j'ai déjà travaillé pas mal sur le fait d'insérer dans une œuvre la voix, par exemple, j'ai une œuvre qui s'appelle Voirex, sur un des textes de Lindelpierre, et à un moment, la voix de Lindelpierre dit elle-même le texte. Je sais pas, la façon de Jacques Tati ou d'Hitchcock qui apparaissent dans leurs films, il y a cet aspect-là. Parce que moi, j'ai toujours été frappé par la question de l'enregistrement. Le fait de pouvoir enregistrer la voix de quelqu'un qui n'est plus, qui est mort, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça change complètement notre rapport au temps. D'un seul coup, on remonte le temps, hein, d'une certaine façon. Donc j'avais cette vision, dès le départ, j'ai voulu insérer la voix de Claudel. Comme si, en fait, soit comme s'il était en train d'écrire sa pièce, soit comme si il était en train de commenter ce que faisaient les chanteurs, soit de les inciter à prononcer certains mots, soit à les mettre en relation l'un avec l'autre. Donc il a cette espèce de rôle assez très sobre, hein. Il intervient assez peu, mais paternel un peu, hein. D'ailleurs, la metteur en scène, en fait, le décor finalement est en quelque sorte le bureau de Paul Claudel.
Vous disiez que le parti pris scénique, c'était de faire se dérouler une partie de l'action dans le bureau de Paul Claudel. Est-ce que justement la mise en scène de Célipote reste fidèle au cadre spatio-temporel, ce Moyen-Âge de convention assez imagé de Claudel, ou est-ce qu'elle prend un peu plus de distance par rapport à ça?
Je crois on est dans quelque chose qui est à la fois proche du Moyen Âge. Alors par exemple, les costumes sont les costumes, les couleurs des costumes proviennent de vitraux. Les lumières aussi font beaucoup allusion à la question du vitrail. Et avec Célipote, on était bien d'accord pour comment dire, laisser effleurer cet aspect du Moyen-Âge, notamment par exemple au niveau de la musique, par l'utilisation du chant grégorien qui est très présent dans l'opéra, hein, qui est présent à la fois du point de vue du pur chant grégorien, mais aussi d'un chant grégorien stylisé, et puis d'un chant grégorien mis en scène avec des superpositions par exemple de différents chants. Et avec Célipote, on s'est vraiment extrêmement bien entendu. Je trouve que. Elle a fait un travail aussi de travail, enfin, elle a fait un travail en profondeur sur la psychologie des personnages qui est tout à fait complémentaire du mien. Enfin, les deux ne se superposent pas. C'est comme si on avait deux angles en fait en permanence, deux façons de voir la même chose au niveau des affects, des émotions.
Vous disiez donc que la musique du Moyen-Âge prend une importance prépondérante dans cette pièce. Il me semble que ce n'est pas la première, puisqu'il y avait Quidsit Musicus aussi d'après Machaut. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique médiévale? Est-ce que c'est simplement convoquer le passé ou convoquer le religieux, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre?
Ce qui m'a passionné au départ de mon intérêt pour la musique du Moyen-Âge, c'est le fait surtout que le chant grégorien, c'est l'écriture pneumatique en fait, mais pas seulement l'écriture, mais la pensée pneumatique, c'est-à-dire au lieu d'imaginer la musique comme une suite de paramètres qui se superposent les uns les autres, c'est une façon beaucoup plus holistique en fait hein, de percevoir les sons, c'est-à-dire. Au lieu de les percevoir comme des petites entités qui s'articulent les unes avec les autres, là on les perçoit beaucoup plus comme de vraies entités, c'est-à-dire déjà des groupes constitués, des gestes sonores en quelque sorte. Donc ça a été la base de mon intérêt, donc beaucoup lié à l'écriture pneumatique, hein, puisque les neumes sont justement ces sortes d'entités. Et puis après, la découverte de la période des organums, comment avec des organums en déchant à deux voix, la simple rencontre hein, de deux voix pouvait déclencher des phénomènes acoustiques d'une richesse absolument incroyable et des harmonies parfois beaucoup plus riches que des accords de cinq ou six sons ravéliens. Le travail sur la teneur et puis bien sûr toute la relation au texte, enfin, parce que c'est une musique qui. Tout ce qui est du domaine de la psalmodie, etc., qui provient du texte. Ce que j'ai essayé de faire, moi, dans cet opéra, c'est-à-dire que la musique provient du texte. Alors, soit elle provient comment dire, du rythme ou de la prosodie du texte lui-même, soit elle provient de l'affect ou de l'émotion que le texte suscite. Mais elle est extraite du texte.
No!
Dans cet opéra, il y a, bon, bien sûr, il y a des chanteurs, mais il y a aussi un ensemble pour jouer donc, toutes les parties instrumentales. Il s'agit de l'ensemble Kern. Au-delà de considérations peut-être très pratiques et de production, de reprise, logistique, est-ce qu'il y a un avantage à écrire plutôt pour ensemble que pour grand orchestre, chœur, musique de scène et tutti quanti comme on a ça à l'opéra? C'est plus facile ou c'est plus difficile?
Je dirais que ça se pose pas en ces termes facile ou difficile, c'est plus que ça permet de beaucoup plus de choses en réalité, parce que ce sont 8 musiciens qui sont vraiment de grands virtuoses et puis qui sont très, très habitués à utiliser toutes sortes de techniques sur leurs instruments. Donc on peut faire avec eux des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un orchestre. Et en plus, donc il y a une espèce de flexibilité incroyable hein, par rapport au travail avec un orchestre. Et puis en plus, le fait de travailler avec l'électronique rajoute une palette de couleurs absolument extraordinaire. Donc finalement, c'est quelque chose de plus riche que ce que j'aurais pu faire avec un simple orchestre.
Vous avez beaucoup écrit pour la voix. Un peu sous toutes ces formes et dans tous les formats, puisque il y a des pièces pour voix seule, il y a des pièces pour voix avec instrument, des pièces pour chœur. Est-ce qu'on écrit pour la même façon pour la voix quand il s'agit d'une œuvre de concert, donc sans action scénique, ou d'une œuvre justement qui accompagne une action qui se passe sur scène?
Alors non, bien sûr que non, parce qu'on ne peut pas demander à des chanteurs la même virtuosité. Quand ils sont partis pour chanter pendant 2h30 et qu'en plus ils doivent se déplacer sur scène, avoir des mouvements, des expressions, bon, etc. Donc on est obligé de simplifier un petit peu quand même l'écriture. Mais je dirais moi que, en fait, disons que tout ce que j'ai fait avant m'a servi. Tout est là en fait. Donc effectivement, il y a une petite simplification dans le sens où c'est une musique vocale peut-être un peu moins virtuose, mais en même temps, elle a toute la richesse de l'expérience de toutes les pièces que j'ai fait avant. Donc, on y trouve beaucoup de choses très différentes.
Ça rejoint un peu une question que vous avez dû entendre beaucoup de fois, je pense. Vous menez une carrière florissante depuis plusieurs décennies, et là, il s'agit de votre premier opéra. Est-ce que c'était simplement que les choses ne s'étaient pas faites avant, ou est-ce que vous avez vraiment voulu attendre le bon moment d'avoir emmagasiné suffisamment de connaissances sur la voix, sur l'instrument, sur l'électronique pour vous lancer dans cette grande aventure qu'est l'ouvrage d'Éric?
Je dirais que dans un premier temps, c'est ça, c'est attendre d'avoir un peu plus d'expérience, mais très vite, ça s'est transformé en tout simplement attendre le texte. Qui me porterait, qui me parlerait suffisamment pour que j'y consacre autant de force, d'énergie, de temps. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver ce texte. Et quand je dis un texte, je n'attendais pas forcément un texte, ça pouvait être aussi un écrivain, une rencontre. Il n'y avait encore rien de fixé. Mais il se trouve que quand j'ai lu cette pièce de Claudel, parce que j'en avais lu d'autres avant, que je trouve magnifique, mais avec lesquels je n'aurais pas eu l'envie de faire un opéra. Quand j'ai lu cette pièce-là, je me suis dit, ben voilà, ça y est.
C'était quand, ça?
C'était il y a 5 ans environ. Donc, à partir de là, j'en ai parlé à mon éditeur, qui l'a fait savoir un petit peu dans le milieu. Et puis, le directeur de l'opéra de Nantes-Angers m'a appelé en disant, voilà, moi, ça m'intéresse, on y va.
Est-ce que, c'est peut-être un pari sur l'avenir, mais est-ce que vous serez le compositeur d'un seul opéra comme l'ont été Bartok ou Debussy, ou est-ce que travailler à Cette annonce faite à Marie a fait germer d'autres idées, d'autres désirs quant à la scène?
Je ne sais pas. Parce que
si ça ne dépend que de vous.
Tout de suite, je dirais évidemment non, parce que là, j'ai passé 3 ans vraiment de folie, quoi. J'y ai consacré toute ma vie là, pendant 3 ans et que c'est vraiment extrêmement prenant. Mais en fait, surtout ce qui m'arrête le plus, c'est qu'avant que je trouve un texte qui réunira à nouveau à la fois une magnifique dramaturgie, à la fois une écriture fantastique, des sonorités poétiques. Aussi un travail sur la spiritualité, sur la transcendance, sur cette espèce, parce que dans cette pièce, en fait, on est dans un monde paysan, hein, on est dans un monde paysan et on ne parle que de métaphysique en même temps. Donc il y a cette espèce de relation perpétuelle entre l'immanence et la transcendance. Bon voilà, avant que je trouve une pièce qui va avoir toutes ces qualités, il risque de se passer un peu de temps.
Merci beaucoup Philippe Leroux pour cet entretien réalisé au Théâtre Gralin à Nantes. Je rappelle que nous nous sommes rencontrés au sujet de la création de votre opéra L'Annonce faite à Marie sur un livret de Raphaël Fleury dans une mise en scène de Célie Pote. On y entendra Raphaël Kennedy, Sophia Burgos, Else Jansen van Münster, Marc Scofoni, Charles Rice et Vincent Bouchot. L'ensemble Cairns sera dirigé par Guillaume Bourgogne et la partie électronique réalisée par Carlo Lorenzi. Il s'agit d'une coproduction d'Angers Nantes Opéra, de l'Opéra de Rennes et de l'IRCAM. Pour les représentations, elles auront lieu les 9, 11, 13 et 14 octobre à Nantes au Théâtre Gralin, puis à l'Opéra de Rennes les 6, 8 et 9 novembre, et enfin le 19 novembre au Grand Théâtre d'Angers. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Bel Aujourd'hui.